Le comte, à cette vue, touché de rappels douloureux jusqu'au plus secret de l'âme, se dressa, souffla vite la lueur sainte et, à tâtons dans l'ombre, étendant la main vers une torsade, sonna. Un serviteur parut. C'était un vieillard vêtu de noir. Il tenait une lampe qu'il posa devant le portrait de la comtesse. Lorsqu'il se retourna, ce fut avec un frisson de superstitieuse terreur qu'il vit son maître debout et souriant, comme si rien ne se fût passé. Raymond, dit tranquillement le comte, ce soir nous sommes accablés de fatigue, la comtesse et moi. Tu serviras le souper vers 10 heures. À propos, nous avons résolu de nous isoler davantage ici, dès demain. Aucun de mes serviteurs, hors toi, ne doit passer la nuit dans l'hôtel. Tu leur remettras les gages de 3 années et qu'ils se retirent. Puis tu fermeras la barre du portail, tu allumeras les flambeaux en bas dans la salle à manger, tout nous suffira. Nous ne recevrons personne à l'avenir. Le vieillard tremblait et le regardait attentivement. Le comte alluma un cigare et descendit au jardin. Le serviteur pensa d'abord que la douleur trop lourde, trop désespérée, avait égaré l'esprit de son maître. Il le connaissait depuis l'enfance. Il comprit à l'instant que le heurt d'un réveil trop soudain pouvait être fatal à ce somnambule. Son devoir d'abord était le respect d'un tel secret. Il baissa la tête. Une complicité dévouée à ce religieux rêve obéit. Continuer de les servir sans tenir compte de la mort. Quelle étrange idée. Tiendrait-elle une nuit? Demain, hélas. Ah, qui savait, peut-être. Projet sacré, après tout. De quel droit réfléchissait-il? Il sortit de la chambre, exécuta les ordres à la lettre, et le soir même, l'insolite existence commença. Il s'agissait de créer un mirage terrible. La gêne des premiers jours s'effaça vite. Raymond, d'abord avec stupeur, puis avec une sorte de déférence et de tendresse, s'était ingénié si bien à être naturel que 3 semaines ne s'étaient pas écoulées qu'il se sentit par moments presque dupe lui-même de sa bonne volonté. L'arrière-pensée pâlissait. Parfois, éprouvant une sorte de vertige, il eut besoin de se dire que la comtesse était positivement défunte. Il se prenait à ce jeu funèbre et oubliait à chaque instant la réalité. Bientôt, il lui fallut plus d'une réflexion pour se convaincre et se ressaisir. Il vit bien qu'il finirait par s'abandonner tout entier au magnétisme effrayant dont le comte pénétrait peu à peu l'atmosphère autour d'eux. Il avait peur. Une peur indécise, douce. D'Athol, en effet, vivait absolument dans l'inconscience de la mort de sa bien-aimée. Il ne pouvait que la trouver toujours présente, tant la forme de la jeune femme était mêlée à la sienne. Tantôt sur un banc du jardin, les jours de soleil, il lisait à haute voix les poésies qu'elle aimait. Tantôt, le soir, auprès du feu, les 2 tasses de thé sur un guéridon, il causait avec l'illusion souriante, assise à ses yeux sur l'autre fauteuil. Les jours, les nuits, les semaines s'envolaient. Ni l'un ni l'autre ne savaient ce qu'ils accomplissaient. Et des phénomènes singuliers se passaient maintenant, où il devenait difficile de distinguer le point où l'imaginaire et le réel étaient identiques. Une présence flottait dans l'air. Une forme s'efforçait de transparaître, de se tramer sur l'espace devenu indéfinissable. Une fois, d'Athol la sentit et la vit si bien auprès de lui qu'il la prit dans ses bras. Mais ce mouvement la dissipa. « Enfant, murmura-t-il en souriant. Et il se rendormit comme un enfant boudé par sa maîtresse rieuse et ensommeillée.